Moi aussi, je veux remercier les organisatrices et organisateurs du colloque qui me donnent à moi aussi l'occasion en fait de faire justement converger ce que j'essaie de faire maintenant, on va dire des intérêts artistiques et des intérêts plus militants. Voilà, pour faire court. Donc avant de commencer, il me faut préciser deux choses. Tout d'abord, j'ai choisi des exemples de spectacles dont je ne prétends en rien juger s'ils sont bons ou mauvais. Plusieurs se verront critiquer dans le cadre de cette analyse des figures animales qui y sont présentées, sans que cela constitue un jugement sur leur valeur artistique. Je crois à la polysémie des œuvres et l'on peut trouver problématique certains aspects de celles-ci, sans pour autant leur nier de nombreuses autres qualités. Par ailleurs, il me faut définir ce que j'entends par la formule art de la marionnette contemporain. Utiliser le terme marionnette, en effet, crée une difficulté. Il est certes évocateur, mais il y a une discordance certaine entre d'une part la réalité des pratiques et créations contemporaines avec la marionnette et de l'autre les projections que le mot crée encore. Trop souvent, l'imaginaire qui s'y attache est celui d'une forme à seule destination des enfants et surtout terriblement sclérosée. Pour pallier à ces représentations minorantes et pour tout dire absolument fausses, il n'existe pas en français d'équivalent du mot allemand Figurentheater, qui met au centre de l'attention non pas l'objet qu'est la marionnette, mais le concept plus versatile de figure, d'effigie. Il n'existe pas non plus d'équivalent du terme anglais plus englobant encore de material performance, qui embrasse toutes les formes artistiques qui font de la matière une partenaire de jeu à part entière, que ce soit au travers de formes marionnettiques ou dans des propositions plus abstraites ou sensorielles. En l'absence d'équivalent, j'utilise donc la formulation un peu longue, art de la marionnette contemporain au pluriel, afin non seulement d'embrasser le théâtre d'ombre, de papier, d'objets ou de matériaux, mais aussi afin que les arts, visuels, performatifs, chorégraphiques ou circassiens, qui proposent un rapport renouvelé à la matière ou à l'objet, trouvent leur place au sein d'un champ disciplinaire, pensé dans toute la variété de ses formes scéniques. Cette introduction un petit peu longue, je l'avoue, a pour objet que vous ne vous étonniez pas de me voir convoquer le travail de Banksy en fin de communication, alors que celui-ci est généralement associé au street art et non à la marionnette. Vous le verrez. Personnellement, je vois de la marionnette partout. Par ailleurs, si je m'intéresse ici particulièrement à la contemporanéité, ce n'est pas par mépris pour les formes traditionnelles dans lesquelles les représentations animales abondent, mais parce que l'un des aspects fondamentaux du théâtre de marionnettes tel qu'il se pratique de nos jours est la coprésence quasi généralisée de la figure marionnettique et de l'interprète ou des interprètes qui l'animent. Ici, Ilka Schönbein. Et ici, la Handspring Puppet Company. Or, cette coprésence, loin de n'être qu'une donnée esthétique ou technique, engage une dramaturgie particulière, en ce que, pour reprendre les mots de Didier Plassard, elle fait drame au sens le plus fort de ce terme, de la manipulation. La relation entre l'interprète et la marionnette devient centrale au spectacle, et l'humain reste présent comme référent, face à laquelle toute différence d'organisation corporelle, émotive, de matière, de mouvement, etc., devient un écart signifiant. Cette centralité de la figure humaine va bien évidemment nous intéresser de façon accrue dans le cadre de cette réflexion. Il faut y ajouter un autre aspect essentiel de la marionnette contemporaine, à savoir la multiplication d'apparitions hybrides. Donc le corps de l'interprète porte souvent à même la peau des marionnettes prothèses qui le démultiplient, le complètent, le déforment ou décloisonnent son appartenance à l'humain. Certaines et certains artistes ont développé ce type de technique au point d'en faire une identité visuelle et thématique. Ilka Schönbein en étant sans aucun doute la plus emblématique à cet égard. On le voit au travers de ces quelques images, la marionnette comme la bande dessinée, le dessin animé ou le cinéma à effets spéciaux permet aisément de donner vie à des créatures hybrides et protéiformes qui peuvent se transformer au cours de la représentation. Et leur puissance est démultipliée du fait que ces transformations s'opèrent sous nos yeux, en simultanéité phénoménologique et dans une proximité qui font la force et l'unicité des arts vivants. Il serait impossible et sans doute peu intéressant de cataloguer de façon exhaustive les apparitions de figures animales marionnettiques sur les scènes contemporaines. Des nombreux animaux dont la rencontre jalonne le parcours des héroïnes des pièces du Théâtre de l'Œil, ici à Montréal, aux animatroniques savamment bricolés de Savannah, de l'artiste israélien Amit Drori, en passant par les assez célèbres, il faut bien le dire, animaux géants de l'île aux machines à Nantes. Les arts de la marionnette sont traversés par la figure de l'animal, qu'il soit réel ou fantasmatique. Mais au-delà de leur omniprésence, qu'est-ce que ces représentations disent des animaux, des humains et des rapports que la dichotomie entre ces deux groupes instaure. Vient-elle fragiliser ou au contraire réaffirmer le caractère étanche de cette séparation qui est une hiérarchisation? Donne-t-elle à voir ou invisibilise-t-elle d'une part notre appartenance au groupe des mammifères et d'autre part les mécanismes de domination que nous avons mis en place au nom d'une supposée supériorité? Les réponses à ces questions sont évidemment multiples et diffèrent selon les artistes, leur sensibilité et leur degré de conscientisation aux enjeux d'éthique animale. Il me paraît toutefois important d'analyser certaines récurrences afin de mettre au jour non seulement les limites, mais également les potentialités du médium marionnettique pour traiter de ces problématiques. Cette analyse est le fruit d'une réflexion engagée, car étant moi-même marionnettiste et végane, je suis certaine que mon outil de prédilection recèle des potentiels encore trop peu explorés pour créer des incarnations sensibles d'animaux sans reproduire leur exploitation et pour modifier radicalement nos imaginaires et, in fine, notre rapport aux animaux. Car comme toute autre transformation sociale radicale, la fin de l'exploitation animale ne peut advenir sans que soient renouvelées en profondeur nos représentations. L'émancipation des femmes et personnes non-binaires, la fin de la suprématie blanche, la possibilité de vivre son homosexualité sans subir de violence, la libre circulation de tous les corps dans les espaces publics, tout cela ne peut advenir dans un monde qui par ailleurs banalise et reconduit sans cesse, dans les films, séries, livres, etc., la transmisogynie et la misogynie, le racisme, l'hétérosexisme et le validisme, pour ne nommer que cela. De même, la libération animale ne peut voir le jour dans un monde pétri de spécisme. Cette révolution des imaginaires n'est pas selon moi une bataille secondaire en marge d'un combat plus essentiel pour la fin de l'exploitation. Elle est l'une des conditions de sa réalisation. Les fictions peuvent en effet révéler de façon à la fois sensible et articulée ce qui trop souvent reste occulté, minoré et normalisé, et fissurer ainsi le réel, afin que des changements matériels et tangibles deviennent non seulement envisageables, mais désirables et désirés. Je pense que l'on peut désormais dire que ma parole est située. Je reviens donc au spectacle de marionnettes. Il me semble que la plus banale récurrence de la mise en scène des animaux par le biais de la marionnette est tout simplement l'anthropomorphisation, sinon visuelle, du moins comportementale, voire l'utilisation de figures d'animaux anthropomorphisés pour incarner des personnages humains. Je m'explique parce que la différence est ténue, on va dire. Ceci est, voilà, c'est des photos d'une mise en scène du Cercle de Craie caucasien, pièce de Bertolt Brecht, où tous les personnages sont absolument humains. Et donc ça a été mis en scène au moyen de marionnettes qui sont notamment composées de trophées de chasse naturalisés, qui ont été mis sur des corps. Alors en plus, le corps féminin est quand même étrangement sexualisé. En tout cas, il y a un mélange de cute et de toton. En tout cas, bref, c'est un mélange étrange, on va pouvoir se le dire. Le petit renard empaillé aussi, c'est l'enfant qui est l'objet, enfin qui est en gros l'enjeu de la pièce. À qui est cet enfant? Est-ce qu'il est à la mère biologique ou à la mère qui l'a éduqué et qui en a pris soin? Cette utilisation des figures d'animaux anthropomorphisées pourrait être utilisée de façon signifiante, comme lorsque Art Spiegelman dessine sous forme de souris les juives et juifs persécutés et exterminés dans Maus et rend ainsi sensible la violence d'être traité en nuisible. Mais généralement, en tout cas à ma connaissance, ces représentations semblent assez gratuites et guidées par un choix esthétique plus que dramaturgique. Pour ce spectacle, par exemple, j'avoue que je n'ai pas vraiment vu le sens de ça. Il pourrait d'ailleurs être intéressant d'analyser plus avant la fascination de certaines et certains artistes marionnettistes envers la taxidermie, les crânes, etc. Tu parlais tout à l'heure, Benoît, de l'instrumentalisation des dépouilles. Je pense que, hélas, on est souvent dans ce registre-là. Le plus souvent, ces figures animales ne sont donc que des écrans de projection de nos affects humains, sans nous amener à reconnaître la capacité des autres espèces à ressentir la douleur et le plaisir, autrement mais aussi vivement que nous, ni surtout à affronter notre part de responsabilité dans leur souffrance. Leur vulnérabilité est rarement le sujet de la pièce, mais plutôt une métaphore pour parler de notre propre fragilité, sans égard pour les conditions réelles d'exploitation dont nous sommes responsables à leur endroit. Les animaux sont les victimes collatérales de nos guerres, pris dans la tourmente de nos conflits, agents involontaires de nos haines. Souvent, leur mort donne lieu à des scènes poignantes, notamment la jument qui meurt dans Stalingrad. Mais le systématisme de ces scènes interroge. Il y a une évidente fascination, presque une fétichisation, à faire mourir en scène les animaux, sans mise à mort réelle, bien heureusement. Mais s'intéresse-t-on au sort de l'animal en tant que tel, ou n'est-il l'objet de notre compassion que parce qu'il était auparavant celui d'une affection particulière et extraordinaire? Il est d'ailleurs notable que la plupart des spectacles reconduisent la dichotomie entre les animaux domestiques, les animaux sauvages et les animaux d'élevage. Les premiers, les pets, lorsqu'ils sont représentés, sont cute, attachants, dans des matériaux doux qu'on a envie de toucher. Les seconds sont majestueux et impressionnants. On peut s'inquiéter pour leur sort et de leur éventuelle extinction. Ils sont source de sagesse et d'apprentissage pour l'humaine ou l'humain qui les côtoie, dignes de respect. Et cute aussi, parfois, notamment lorsqu'ils sont domestiqués et deviennent les improbables animaux de compagnie du héros ou de l'héroïne. Les troisièmes, ceux que l'on élève pour les exploiter, sont quant à eux absents. J'ai eu beau fouiller ma mémoire autant que les internets, je n'ai pas trouvé trace de spectacle de marionnettes s'attachant à nous rendre sensibles leurs tribulations et leurs combats. Il va de soi que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a peu de traces. Cette hiérarchisation interespèce se rejoue aussi lorsque, par exemple, des artistes s'intéressent de façon authentique à des animaux sauvages, ici avec la Liga Teatro Elástico les loups. Vous avez peut-être vu ce spectacle en mars au Festival Castelier, ici à Montréal. Donc, s'y intéressent de façon authentique, notamment pour leur capacité à transformer les écosystèmes, mais que ces artistes organisent leurs pièces entièrement autour d'une scène de chasse et de mise à mort, avec cette fascination que nous semblons souvent avoir pour les carnivores, comme si les herbivores n'avaient pas eux aussi d'impact sur l'équilibre des écosystèmes. Considère-t-on leur charge dramatique insuffisante pour faire théâtre? Par ailleurs, les marionnettistes utilisent pour la plupart nombre de produits issus de l'exploitation animale. Les peaux, cuir, fourrure, mais aussi colle, notamment colle de peau de lapin, les animaux empaillés, la laine, les os, tous ces matériaux rentrent communément dans la composition des marionnettes sans faire l'objet d'un questionnement éthique. Moi-même, j'ai continué à utiliser le cuir pour sa versatilité, bien après avoir cessé de manger des produits d'origine animale. Certaines et certains utilisent ces matériaux, mais recyclés. Ce qui donne d'ailleurs lieu à d'ingénieuses trouvailles, comme par exemple le très beau cheval de Stalingrad qui est fait dans un vieux sac en cuir récupéré. Cependant, la norme est plutôt d'utiliser ces produits sans problématiser leur provenance. Le portrait dressé pourrait paraître sombre. Pourtant, la marionnette possède une telle capacité à susciter l'empathie que même sans être le sujet de la pièce, le vécu de l'animal nous atteint. Elle permet de représenter la violence sans la reconduire, d'une façon non édulcorée et pourtant recevable parce que médiée, et incarne très immédiatement la crainte d'être réduite ou réduit à l'état de chose par autrui. Qui plus est, le rapport omniprésent à la matière place le public dans une logique de projection et de sensation qui fait appel au corps de chacune et chacun comme porteur d'expériences physiques et psychiques singulières, ce qui crée un important investissement émotionnel dans le personnage marionnettique. De ce fait, les marionnettes d'animaux, par leur seule présence, captent l'attention du public. Et il suffit que les artistes, sans pour autant se lancer dans un plaidoyer pour la cause animale, centrent leur spectacle sur ces figures pour transformer notre regard. En témoigne par exemple le travail de la compagnie sud-africaine Handspring Puppet Company à Cape Town, dont l'impressionnant bestiaire a culminé avec la création des marionnettes de chevaux grandeur nature pour la production du National Theatre War Horse. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme, connu pour son dispositif d'énonciation singulier, puisque le héros qui nous transmet son histoire, en mots, en anglais, est un cheval. Basil Jones et Adrian Kohler, les directeurs artistiques de la compagnie, ont choisi de ne pas transposer cette parole intérieure dont l'improbabilité aurait été bien plus sensible sur scène qu'à la lecture. Les chevaux ne parlent donc pas. Cependant, leur centralité a été maintenue. Mais leurs émotions ne sont exprimées que par le mouvement et quelques bruits et respirations. Ce faisant, les artistes ont poussé le public à devenir ce que Jones appelle des lecteurs et lectrices avides de la sémiotique marionnettique. Face aux chevaux, les spectateurs et spectatrices s'attachaient en effet au moindre mouvement d'oreille et interprétaient ainsi l'état émotionnel de ces personnages muets. Pour que cela puisse fonctionner, il est évident que l'équipe a dû travailler avec finesse et précision à l'analyse du mouvement et du comportement des chevaux et la traduire dans la conception, la fabrication et l'animation des marionnettes. Je vais maintenant vous montrer un petit bout en mouvement, car les marionnettes, c'est bien quand ça bouge. Alors, je vais vous passer les messieurs qui parlent parce qu'ils sont vraiment pas très intéressants. Je vais juste vous montrer un petit peu du cheval en mouvement. Bon, on s'entend que là, il n'est pas dans le contexte du spectacle, hein. C'est une démonstration. Ils sont par ailleurs capables de porter des gens sur leur dos véritablement. En termes de conception et de fabrication, c'est une des plus belles marionnettes que j'ai vues de ma vie. Là, c'est comme, c'est absurde de beauté. Hop. Okay. Pourquoi il veut pas? Voilà. Qui plus est, parce que les chevaux sont manipulés par trois personnes. On l'a vu, deux à l'intérieur, dont on voit dépasser les jambes et dont on fait totalement abstraction, et une à l'extérieur qui manipule la tête tout en revêtant les habits et le statut de palefrenier ou palefrenière. L'humain fait toujours partie de l'image. Cela permet notamment de ne pas nier ou occulter le rapport de domination entre les animaux et les humains. On sait que les chevaux ont été les grands oubliés de la comptabilisation des morts sur les champs de bataille, notamment lors des deux guerres mondiales, alors qu'ils étaient forcés à y prendre part. Dans le spectacle, les chevaux sont contraints à travailler. D'abord dans les champs, à la culture des champs, et ensuite au champ de bataille. Et même si la pièce fait une grande place à une amitié entre un homme et un cheval, il est impossible, en la regardant, de ne pas ressentir et comprendre que ces animaux sont sensibles, ont des comportements sociaux complexes, et qu'il en est fait totalement abstraction par la plupart des humains qui les exploitent sans compassion. Pour finir, j'aimerais donner un exemple que je trouve plus intéressant encore, d'une utilisation artistique de l'objet marionnettisé à des fins, cette fois-ci très claires et assumées, de dénonciation politique. Il s'agit de la performance Sirens of the Lambs, orchestrée par l'artiste Banksy, pendant laquelle il fait tourner dans les rues du Meatpacking District de New York un camion d'abattoir empli de doudous d'animaux dont les têtes dépassent. Donc le Meatpacking District, évidemment, à New York, comme historiquement, c'est là que se passait l'abattage des animaux. On n'entend pas très fort, mais ils sont assez loud. Donc en utilisant ces peluches et leurs petits bruits pathétiques pour figurer les animaux que l'on mène à la mort, l'artiste abolit la discontinuité socialement construite entre l'animal et la viande mangée, toute cette industrie laissée à la marge de nos consciences qui organise l'élevage, le transport et l'abattage. Autrement dit, il redonne visibilité aux référents absents conceptualisés par Carol G. Adams dans son ouvrage fondateur « The Sexual Politics of Meat, A Feminist Vegetarian Critical Theory ». Le socialement refoulé est dévoilé de façon saisissante grâce à la force d'évocation et la charge mémorielle et émotive des objets marionnettisés. En effet, pour contrer la façon dont nous sommes conditionnés à oublier l'animal comme être sentient, quel meilleur choix que la peluche, représentation non réaliste venue de l'enfance et intimement liée à nos premiers attachements. L'utilisation de Banksy est fine et d'une grande efficacité. Elle provoque d'abord le rire face au décalage entre le camion réel et les peluches, puis la compréhension et l'effroi. Et elle recrée une capacité d'empathie habituellement anesthésiée, sans reproduire la cruauté qu'elle dénonce. Car cela aussi est une des forces de la marionnette. Ne faisant pas appel au corps de vrais animaux, elle n'amène pas les artistes à reconduire ce qu'elle ou ils prétendent déconstruire. Cette performance permet aussi d'alerter et de sensibiliser sans passer par des images de violence. Je précise que je ne suis absolument pas contre le fait de donner à voir ce qui se cache derrière les portes des abattoirs, bien au contraire. Il me semble essentiel de montrer la réalité pour faire voler en éclats l'hypocrisie de concepts tels que l'abattage dit humain. Mais ce n'est pas l'unique façon d'atteindre celles et ceux qui n'interrogent pas leur consommation de produits d'origine animale, ni leur rapport contradictoire aux animaux selon qu'ils sont étiquetés de compagnie ou d'élevage. Et comme dans d'autres luttes, il importe de développer la plus grande diversité de tactiques possibles afin d'amener une société récalcitrante à changer. En conclusion, j'espère avoir montré comment, bien que traversée par les mêmes imaginaires spécistes que les autres médiums artistiques, la marionnette possède des potentialités expressives particulières qui peuvent être mises au service de la cause animale. grâce à la charge émotive dont elle est porteuse et parce qu'elle permet de donner vie et présence aux référents absents, elle offre des outils importants et opérants pour dépasser une imagerie cute, réconfortante ou au contraire monstrueuse, pour politiser notre rapport aux animaux et générer une empathie radicale pour le vivant. Parce que rien n'est trop petit ou trop grand pour être représenté par ce médium virtuose des changements d'échelle, la marionnette nous permet de rendre tangible notre interdépendance et notre devenir commun avec les autres espèces, l'environnement, l'écosystème. Elle peut donner voix à celles et ceux qui n'en ont pas, comme cette fourmi se lamentant dans la pièce Stalingrad du géorgien Rezo Gabriadze. Les hommes ont tout compté. Combien ils ont perdu de canons, combien ils ont perdu de gens. Mais nous, les fourmis, est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous compter? Qui fait donc moins de bruit que nous sur cette terre? Merci.